Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous commençons aujourd'hui le chapitre 8 de l'Évangile de Saint Jean sur le polycopier qui contient les chapitres 6 à 10 de Saint Jean, les commentaires appropriés des pères de l'Église. Nous sommes à la page 18. Voyons d'abord les 11 premiers versets de ce chapitre 8 de Saint Jean. Or Jésus se rendit sur la montagne des Oliviers de grand matin, il vint de nouveau dans le temple et tout le monde vint à lui. Et s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère et se placèrent au milieu de la foule. Et dirent à Jésus, « Maître, cette femme vient d'être surprise en adultère. Or, Moïse, dans la loi, nous ordonnait de lapider ces femmes-là. Vous donc, que dites-vous ? » Il disait cela pour les tenter afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, se baissant, écrivait avec son doigt sur la terre. Et comme il persistait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la pierre le premier. » Puis se baissant de nouveau, il écrivait sur la terre. L'ayant entendu cela, ils se retirèrent l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Et Jésus demeura seul avec cette femme qui était debout au milieu. Alors Jésus, se relevant, lui dit, « Femme, où sont ceux qui vous accusaient ? Personne ne vous a-t-il condamné ?» Jésus, elle dit, « Seigneur, personne. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne vous condamnerai pas. Et désormais, ne péchez plus. » Alors voyons un petit peu ce que disent les pères sur ce passage-là. Donc notre Seigneur enseigne, nous dit cet évangile, sur la montagne des Oliviers. Donc c'est là où notre Seigneur va souffrir la passion, au moins le début de sa passion, son agonie au jardin des Oliviers, le jardin de Gethsémani. Donc, où convenait-il, disent les pères, que le Christ enseignât, si ce n'est sur le mont des Oliviers, sur la montagne des parfums, sur la montagne de l'onction. Rappelez-vous que le mot Gethsémani signifie l'endroit où on fabriquait l'huile, le pressoir plus directement. Pressoir des olives, c'était l'endroit où on pressait les olives, on les réduisait en poudre pour pouvoir en extraire l'huile. Et l'huile est le symbole de la grâce sanctifiante. Donc, il était normal dans l'esprit des pères que, justement, notre Seigneur Jésus-Christ ait sa passion à l'endroit même où l'olivier donnait son sucre, en quelque sorte, où l'olivier donnait son huile. Pourquoi ? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a été broyé dans son âme, dans son corps, par la passion, et de même que le noyau d'olivier broyé va donner de l'huile, de la même façon, le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, broyé par la passion, par le péché des hommes, va donner l'huile de la grâce. C'est un petit peu l'idée. Et c'est le nom du Christ qui vient d'onction. Le crème veut dire l'onction. Donc c'est le symbole, si vous voulez, de l'onction, c'est le symbole donné par le Saint Crème qui va découler sur la personne qui est consacrée. Dieu nous a donné cette onction pour faire de nous de forts lutteurs contre le démon. Donc l'huile, si vous voulez, a plusieurs rôles. Elle va d'abord renforcer, donner une force musculaire, c'est ce que croyaient les anciens. Donc, les lutteurs se recouvraient d'huile, se massaient avec de l'huile d'olive pour être plus forts. Et c'est aussi un moyen de lutter plus facilement contre les ennemis, parce que les prises des ennemis glissaient sur les corps huileux. C'est un petit peu le symbole. Donc cette huile signifie aussi la consécration. C'est pour cela que les gens consacrés reçoivent une onction à l'huile. D'abord, à commencer par les bébés au baptême. Quand on baptise un bébé, on consacre le bébé par l'onction au Saint-Crème à la fin du baptême. De la même façon, au milieu du baptême, il y a une autre onction, cette fois-ci avec l'huile des catéchumènes. La seule huile qu'on n'utilise pas pour le baptême, c'est l'huile des infirmes, qui n'est réservée qu'à l'extrême onction. Donc, de la même façon, on va retrouver la même onction, la même idée d'onction pour la consécration du prêtre. Le prêtre est consacré à Dieu. Et au moment de son ordination sacerdotale, les mains du prêtre, la paume des prêtres, les doigts, côté interne, vont être oints avec l'huile des catéchumènes par l'évêque pour donner au prêtre le pouvoir de toucher la Sainte Eucharistie. Pour l'évêque, cette consécration, l'épiscopat n'est pas un sacrement à part, c'est la complétion totale, l'achèvement total du sacrement de l'ordre. Et donc l'évêque, lui, est consacré également, mais pas avec l'huile des catéchumènes, avec une huile bien plus digne, à savoir le Saint-Crème. Donc il va être, le sommet de son crâne va être consacré avec l'huile du Saint-Crème. Donc la montagne des Oliviers, c'est la montagne de l'onction, c'est ce que disent les pères. Alors voilà ce qu'expliquent les pères de l'Église. Ici, Alcuin, l'onction procure du soulagement aux membres fatigués et souffrants. Le mont des Oliviers signifie donc aussi la bonté, la sublimité de la bonté du Sauveur. C'est la signification du mot miséricorde. Misericordia, c'est le cœur qui est prompt à se donner aux gens qui sont dans la misère morale. Donc, misère, corps, d'arrêt, c'est l'origine en latin. Donc, le cœur qui est prompt à se donner à ceux qui souffrent, c'est l'idée. C'est ça la miséricorde. Bon. Un synonyme de miséricorde, si vous voulez, c'est le mot de compassion. Une étymologie complètement différente, mais c'est la même idée. Compassion, cum patere, celui qui souffre avec la personne qui est dans la misère. C'est l'idée, si vous voulez, de la compassion, l'idée de la miséricorde, c'est un peu la même. C'est pour moi un peu deux synonymes, compassion et miséricorde. L'exemple, c'est la maman, je vous l'ai souvent déjà dit, la maman qui a un enfant qui souffre à l'hôpital, il est sur son lit d'hôpital, la maman voudrait, s'il le pouvait, prendre sur elle-même les souffrances de son enfant, pouvoir enlever les souffrances de son enfant et souffrir à la place de son enfant, elle ne le peut pas, donc elle prend l'enfant par la main et lui dit simplement « Je suis là, mon fils ». Mais par sa présence, elle réconforte son enfant. C'est le rôle d'être Sainte Vierge Marie au pied de la croix, c'est la même chose. Donc la nature de l'huile, disent les pères, se prête parfaitement à cette signification mystérieuse, car elle surnage au-dessus de tous les autres liquides, comme le chante le psalmiste. Avec une faute d'orthographe, une faute de frappe ici, qui m'a échappé. Donc encore une fois, je corrige ces fautes quand je les vois. À la fin de chaque fichier qui groupe les commentaires sur 5 chapitres, je change le polycopié, donc soyez pas étonnés si avant la fin de ce groupe de 5 chapitres, donc qui a toujours des fautes de frappe, elles ne sont corrigées qu'en fin de fichier. Donc, ces miséricordes, dit le psalmiste David, ces miséricordes sont au-dessus de toutes ses œuvres. Et dès le point du jour, il retourna dans le temple pour nous donner un symbole de sa miséricorde, qu'il faisait éclater aux yeux des fidèles concurremment avec la lumière naissante du Nouveau Testament. En effet, en revenant au point du jour, il annonçait l'aurore de la grâce de la loi nouvelle. C'est le verset 2. De grand matin, il vint de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Donc si vous voulez, il y a un autre symbole. De grand matin, c'est le moment où le soleil se lève. Et le soleil, qui se lève représente la lumière de l'évangile qui va illuminer le monde. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est représenté par ce soleil. Loin de nous, bien sûr, l'idée qu'on adore le soleil, mais c'est un symbole. Le symbole du soleil qui donne la chaleur et la lumière au monde, le symbole de la lumière de l'évangile qui va éclairer, renforcer, purifier et guérir le monde qui est en proie à l'obscurité totale du péché. Donc c'est l'aurore de la grâce de la loi nouvelle qui est indiquée. Et c'est pour ça que tout le monde vient à lui, parce que les gens comprennent que de cette bouche sacrée, de cette bouche divine, sort la lumière qui va éclairer le monde. Rappelez-vous ce que plusieurs autres symboles qu'on retrouve dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas simplement la lumière du monde, il est aussi la porte par laquelle on rentre pour entrer dans la bergerie. Il est aussi le sel de la terre, la lumière du monde, le sel de la terre. On retrouve tous ces symboles qui sont très beaux. La terre est en effet le symbole du cœur humain qui produit ordinairement le fruit des bonnes et des mauvaises actions. Le doigt qui doit sa souplesse à la flexibilité des articulations figure la subtilité du discernement. Donc Jésus nous apprend donc à ne pas condamner aussitôt avec précipitation le mal que nous pouvons apercevoir dans nos frères, mais à rentrer humblement dans notre conscience et à l'examiner à fond avec le plus grand soin, comme avec le doigt du discernement. Et c'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ écrit sur la terre avec son doigt. Parce que ce doigt est le symbole du doigt qui divise les âmes entre les, si vous voulez, ceux qui seront à droite, les brebis, et ceux qui seront à gauche du Seigneur, à savoir les boucs, dont d'un côté les élus, de l'autre côté les condamnés, les damnés. Cet esprit de discernement, de discrétion, c'est le véritable esprit de discrétion. Les règles de discernement des esprits, c'est des règles de distinction. L'esprit de discernement, c'est un esprit qui permet de distinguer entre le mal et le bien et le mal. Parce que le mal a tendance à se recouvrir d'une peau de brebis, ce qui fait qu'il n'est pas très clair, pas très net. Ici, on voit très bien dans la façon d'agir de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc cette femme qui est amenée, qui vient d'être surprise en adultère. Et notre Seigneur Jésus-Christ ne dit rien au début, il se contente d'écrire avec son doigt sur la terre, en disant plus tard, un peu après. Donc il commence par faire obliger les gens à réfléchir, et il leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la pierre le premier, et il continue d'écrire. Et c'est là où tous commencent à partir, en commençant par le plus âgé. Donc Jésus, c'est le verset 6, il disait cela pour le tenter afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, se baissant, écrivait avec son doigt sur la terre. Jésus, en écrivant, donc au sens qu'on peut appeler historique, Jésus, en écrivant de son doigt sur la terre, prouvait que c'était lui qui avait autrefois écrit la loi sur la pierre. Donc il y a, si vous voulez, une allusion ici d'après les pères de l'Église. Donc notre Seigneur qui écrit sur la terre avec son doigt représente les tables de la loi sur lesquelles Dieu lui-même va inscrire avec son doigt la loi des 10 commandements de Dieu. C'est un petit peu la même idée qui est là. D'ailleurs, d'après certains pères se sont demandé quel texte le Christ écrivait-il dans la poussière. Alors, il y a plusieurs idées. Les pères ne sont pas d'accord entre eux. On va voir ça ensemble. Il y en a qui disent que c'était les péchés mortels, tout simplement, de ceux qui accusaient, des accusateurs, qui étaient écrits sur le sol, ce qui expliquerait pourquoi ils sont partis tellement vite. La deuxième raison, la deuxième possibilité, d'après d'autres pères, c'est que notre Seigneur a écrit sur le sol la liste des 10 commandements. Bon. Donc, c'est encore une fois une allusion à la loi donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Donc, symboliquement, l'attitude de notre Seigneur montre qu'il faisait des miracles sur la terre, car comme Dieu, il s'humilia pour devenir homme. Les miracles étant des signes apportés sur la terre. Donc, vous voyez, il y a une image ici de l'union entre la terre et l'humanité. De même qu'il y a une union entre le ciel et la divinité, d'un côté, il y a la terre et l'humanité de l'autre. Donc notre Seigneur Jésus-Christ touche la terre de son doigt pour expliquer qu'il a une nature humaine. Il s'humilie donc pour devenir homme en touchant la terre et en devenant littéralement terre lui-même. N'oubliez pas que le premier homme a été créé par Dieu à partir du limon de la terre. C'est un petit peu l'idée qui est là. Donc notre Seigneur explique que sa loi nouvelle devait maintenant être écrite sur une terre qui donne du fruit. En plus, elle est pierre nue de la loi ancienne. Notre Seigneur, Dieu a donc donné la première loi, la loi naturelle, qui est la traduction dans notre âme de la loi éternelle. Cette loi naturelle, la loi des 10 commandements de Dieu, a été donnée sur une pierre froide. Au contraire, notre Seigneur Jésus-Christ, par son sang rédempteur qui va tomber sur la poussière de la terre, va en faire, si vous voulez, une terre qui va être transformée par la chaleur provoquée par la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quel texte le Christ écrivait-il dans la poussière en haut de la page 19? Saint Jérôme dit qu'il écrivait les péchés mortels des scribes et des autres hommes. Selon saint Ambroise, il y a une autre explication, il traçait les termes suivants. Vous voyez la paille dans l'œil de votre frère, mais ne voyez pas la poutre qui est dans le vôtre. D'après encore une fois d'autres pères, je ne sais plus où j'ai lu ça, je n'ai pas retrouvé le texte chez les pères de l'Église, mais j'avais lu quelque part, je ne me rappelle plus exactement où, il y a longtemps, que d'après certains pères, notre Seigneur à ce moment-là, en écrivant sur le sol, avait écrit en fait la liste des 10 commandements. Il faut préciser que cette loi dont ils font, à laquelle ils font allusion, au verset 5 du chapitre 8, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider ces femmes-là, les femmes adultères. Donc il faut préciser qu'au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, cette loi n'était plus appliquée depuis longtemps. Donc on ne lapidait plus les femmes adultères. Bon, il est évident qu'en plus de ça, il y a quand même on comprend que ces lois aient été supprimées par l'autorité de l'Église de l'époque, parce qu'on oublie un peu trop, peut-être qu'il n'y a pas que la femme adultère qui est responsable, mais celui qui est derrière l'adultère, l'homme qui est derrière l'adultère. Il n'y a pas que la responsabilité de la femme. Ça, c'est un petit peu un problème qu'on a souvent avec dans la religion juive, d'ailleurs c'est encore tout à fait comme ça, ou dans la religion musulmane encore plus peut-être, où on accuse la femme adultère de tous les maux, elle est responsable de tous les maux, et on lui dit que derrière la responsabilité de la femme, il y a la responsabilité d'un homme. Si la femme a commis l'adultère, elle a commis l'adultère avec quelqu'un. C'est quelqu'un, c'est un homme avec lequel elle n'avait pas le droit d'avoir de relation. Donc vous voyez, c'est un exemple d'un point qui n'est pas un point de doctrine. Le texte sacré dit que notre Seigneur écrivait sur la terre. Maintenant, qu'est-ce qu'il a écrit? Ça, c'est pas de foi. Entre autres parce qu'il n'y a pas consensus des pères. Je vous l'ai déjà expliqué, s'il y avait consensus des pères sur un point de ce genre, ce point deviendrait protégé, serait protégé par l'infaillibilité de l'Église. Donc on avance, verset 12 du chapitre 8 de Saint Jean, Jésus leur parla de nouveau en disant « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors, on voit encore cette dichotomie entre la lumière et les ténèbres. La lumière du monde, c'est la lumière de l'Évangile. Les ténèbres, c'est les ténèbres de l'enfer. Rappelez-vous, ceux qui ont fait les exercices saint-Ignace le savent bien, parce que ça revient très souvent dans les règles de discernement des esprits. Donc les signes par lesquels on peut reconnaître la présence de Dieu, du bon esprit dans une âme, ou près d'une âme, ou autour d'une âme, le premier de ces signes, c'est la joie. Mais la joie est associée à la paix, à la lumière, et à l'attraction vers le beau, et au silence en général. Donc la lumière du monde permet d'arriver, la lumière du monde qui est notre Seigneur Jésus-Christ, permet d'arriver dans la paix, la paix du paradis, la paix du salut. Donc il y a un lien entre la lumière, la paix, l'amour de la beauté, la joie, bien sûr, et le silence. De même qu'au contraire, pour les ténèbres, il y a un lien entre ces ténèbres et la tristesse. On trouve dans les ténèbres du mauvais esprit, c'est un des signes d'après saint Ignace, pour lequel on peut reconnaître la présence du mauvais esprit autour d'une âme, qui cherche à rentrer dans l'âme. Le premier de ces signes, c'est justement la tristesse. La tristesse, la confusion, l'obscurité, donc l'absence de lumière, l'obscurité et les ténèbres, c'est la même chose, et l'attraction vers les choses laides, les choses mondaines, et le bruit. Oui, donc on voit bien cette opposition qui est très forte. Notre Seigneur Jésus-Christ, la lumière du monde, contre les ténèbres provoquées par le monde. Lumière du monde, la vraie lumière du monde, contre la fausse lumière du monde. Les gens qui suivent le démon prétendent être dans la lumière, mais cette lumière qu'ils suivent est en fait un ténèbre, ce sont les ténèbres. Au contraire, les gens du monde vont accuser notre Seigneur Jésus-Christ et son Église catholique d'être dans les ténèbres de l'obscurantisme, alors qu'en fait, nous suivons notre Seigneur Jésus-Christ qui est la véritable lumière. Il est intéressant de voir que les anticatholiques prétendent que notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église catholique, forme une société obscurantiste. Qui dit obscurantiste dit obscurité. En fait, c'est la lumière. On a du mal à comprendre ça. Beaucoup de nos jeunes fidèles pensent, par exemple, que le 21e siècle, le siècle de la lumière extraordinaire, ils oublient de comprendre que le grand siècle de la lumière de l'Évangile en Europe, c'est d'abord le 13e siècle. C'est le siècle de la véritable lumière. C'est le siècle de Saint Louis, c'est le siècle de Saint Thomas d'Aquin, c'est le siècle de Saint Bonaventure, c'est le siècle de Saint François, de Saint Dominique, etc. Alors qu'au contraire, la philosophie des Lumières, donc là on est juste avant la Révolution, donc au début du moitié, si vous voulez, au milieu du 18e siècle, la philosophie des Lumières, avec les philosophes comme Voltaire, Diderot, Rousseau, D'Alembert, etc., cette philosophie des Lumières, en fait, est une philosophie des ténèbres. Donc la lumière qu'annonce le démon sont en fait des ténèbres, alors que la lumière qu'annonce notre Seigneur Jésus-Christ sont la véritable lumière qui amène au ciel. Alors, la lumière représente la vertu, les ténèbres représentent le péché. Voilà ici ce que disent les pères de l'Église au milieu de la page 19. Les ténèbres les plus à craindre sont ceux des mœurs et non les ténèbres des yeux. Ou du moins, ce ne sont que les ténèbres des yeux intérieurs à l'aide desquels on distingue non le blanc du noir, mais le juste de l'injuste. Donc celui qui vit dans les ténèbres, c'est celui qui vit dans le péché, qui vit avec le démon. Tous les pères qui parlent de l'enfer disent qu'il y a des ténèbres constantes dans l'enfer. Ténèbres constantes dans l'enfer qui augmentent encore la panique de ceux qui sont dans les enfers. Saint Jean Chrysostome, ici, donc il va parler aussi de ces ténèbres. C'est dans un sens spirituel qu'il faut entendre ces paroles, dit-il, il ne demeure pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit Saint Jean, verset 12. C'est-à-dire, il ne demeure pas dans l'erreur. Celui qui suit notre Seigneur Jésus-Christ sort des ténèbres du monde pour entrer dans la lumière de l'Évangile. Au contraire, celui qui abandonne notre Seigneur Jésus-Christ quitte les lumières de notre Seigneur Jésus-Christ pour entrer dans les ténèbres du monde, c'est la fausse lumière du monde. Rappelez-vous le bon Samaritain, l'homme qui gît à moitié mort sur le bord de la route, c'est quelqu'un qui est passé de Jérusalem à Jéricho. Donc, il est passé de la véritable lumière. Jérusalem, dans ce cas-là, représente le paradis, littéralement. Eh bien, il est passé du paradis à Jéricho, c'est-à-dire la lumière du paradis, à l'obscurité de la terre. Jéricho représentant le monde changeant. Pourquoi? Parce que Jéricho, le symbole héraldique de la ville de Jéricho, c'est la lune. Oh, la lune change tout le temps au cours du mois. Elle ne reste pas dans son apparence extérieure, toujours de la même taille. Elle va changer de taille, elle va se réduire, elle va augmenter vers une lune pleine, puis un truc qui va d'abord croître, puis lune pleine, puis lune décroissante. Donc on voit tout cela. Donc les ténèbres à craindre sont les ténèbres des mœurs. De même que la mort qui est vraiment à craindre n'est pas la mort physique, c'est-à-dire la séparation du corps et de l'âme. La mort qui est à craindre, c'est la mort des mœurs, c'est-à-dire la mort spirituelle. Ça, il faut bien comprendre ça. Il y a le père qui ne pas qu'il y a trois morts. Il y a la mort physique, séparation entre le corps et l'âme par laquelle on va tous passer. Il y a la mort spirituelle, qui est beaucoup plus grave, qui est le passage de l'état de grâce à l'état de péché mortel. Il y a la mort éternelle, qui est la plus grave de toutes. La mort éternelle étant le passage du temps à l'éternité, un état de péché mortel. Une fois qu'on tombe dans l'éternité, on ne peut plus bouger parce qu'il n'y a plus de mouvement possible, puisque le mouvement, c'est le passage de la puissance à l'acte. Comme il n'y a plus de temps, il n'y a plus de mouvement possible, donc quelqu'un qui meurt dans l'état de péché mortel ne peut plus changer son état. Il va rester en état de, comme état d'ennemi de Dieu pendant toute l'éternité. Donc, les ténèbres, ce n'est pas simplement les ténèbres des mœurs, mais c'est aussi les ténèbres de l'erreur. C'est dans un sens spirituel qu'il faut entendre ces paroles, dit Saint Jean Chrysostome. Il ne demeure pas dans les ténèbres, c'est-à-dire il ne demeure pas dans l'erreur. Le Sauveur donne ici des éloges à Nicodème et aux serviteurs envoyés par les pharisiens, tandis que pour ces derniers, il laisse à entendre qu'ils sont des artisans de ruse et de fraude. Qu'ils sont dans les ténèbres et dans l'erreur, mais que cependant ils ne triompheront point de la lumière. Bon, par cette lumière fut faite la lumière du soleil, et la lumière qui a fait le soleil fut produite sous le soleil par nous, pour nous. Ne méprisons pas donc ce voile de sa chair. Le soleil est couvert par un nuage, non pour l'obscurcir, mais pour tempérer ses rayons. Donc derrière cette lumière, si vous voulez, il y a un autre symbole. La lumière de notre Seigneur, la lumière du monde, c'est la lumière de l'incarnation. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui se fait homme, et en prenant notre nature humaine, il va illuminer les ténèbres du péché et purifier, éclairer les ténèbres du péché qui vont perdre justement leur nature pécamineuse grâce à l'incarnation, à l'union dans la même personne, la seconde personne de la Sainte Trinité, l'union de l'humanité, de la divinité. Ne méprisez donc pas ce voile de sa chair. Le voile de la chair, c'est l'humanité, notre Seigneur. Le soleil est couvert par un nuage, non pour l'obscurcir, mais pour tempérer ses rayons. Donc le Christ parle à travers le voile de sa chair, cette lumière qui ne s'éteint jamais. Lumière de la connaissance, lumière de la sagesse qui dit aux hommes, je suis la lumière du monde. La lumière de la vie, la lumière de gloire qui bénit les fidèles et les saints, lumière qu'ils obtiendront de lui au ciel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette lumière de Dieu va nous accuser, va nous accompagner, pardon, au cours de notre voyage, qui va commencer par la vie purgative, puis passer à la vie illuminative et finir en vie unitive. La vie purgative étant la vie de purification, purgare en latin c'est purifier, puis ensuite on passe en vie illuminative, recevant les lumières du Saint-Esprit, pour pouvoir s'unir complètement à notre Seigneur Jésus-Christ en vie unitive ou en vie mystique. Donc la vie mystique c'est la lumière de gloire, donc il y a trois étapes. Il y a l'étape de la nature, puis l'étape de la grâce, et enfin l'étape de la gloire. Donc, lorsque nous sommes en état de grâce, avec la charité en nous, nous avons en nous, en quelque sorte, déjà un embryon de la lumière de gloire. Sauf que la lumière de grâce est une lumière qui n'est pas permanente, puisqu'on peut malheureusement la perdre par le péché mortel. J'aime bien cette phrase, cette lumière représente la lumière de la foi. Donc pas simplement la lumière de la grâce, mais la lumière de la foi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir la charité sans la lumière de la foi et la lumière de l'espérance. La foi et la charité étant comme les deux bases sur lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ va pouvoir construire la vertu théologale de charité. Il ne peut pas y avoir de charité sans foi et espérance. Par contre, l'inverse est possible. On peut avoir la foi et l'espérance et pas être en état de péché mortel, et être en état de péché mortel, donc en ayant perdu la charité. Par contre, si je commets un péché mortel, je perds immédiatement la charité. Donc la charité ne peut pas exister. S'il y a quelqu'un à la charité, ipso facto, il a avec cette charité la foi et l'espérance. Alors, où est-ce que j'en suis? Le Christ parle à travers le voile de sa chair, cette lumière qui ne s'éteint jamais, lumière de la connaissance, lumière de la sagesse, qui dit aux hommes, je suis la lumière du monde, la lumière de la vie, la lumière de la gloire, qui bénit les fidèles et les saints, lumière qu'ils obtiendront de lui au ciel. Donc quelqu'un qui est en état de grâce a déjà en lui un avant-goût du ciel. Parce que celui qui est en état de grâce a déjà en lui la possibilité d'atteindre la lumière de gloire. Il n'a pas encore la lumière de gloire. La lumière de gloire, il n'aura qu'au ciel. Mais il y a le pouvoir de l'atteindre, cette lumière de gloire. Donc cette lumière représente aussi la lumière de la foi qui nous guide, vers la gloire et la sainteté. Donc, c'est à la fois la lumière de la foi, la lumière de l'espérance, et la lumière encore plus lumineuse de la charité, car la foi est un flambeau qui guide les fidèles à travers l'obscurité du monde, leur montrant le véritable chemin de la vie, par lequel ils pourront atteindre sans trébucher le bonheur éternel. Donc il y a ce long chemin, c'est l'image, si vous voulez, du groupe qui est complètement perdu dans la nuit, qui cherche la lumière pour sortir et retrouver la sortie qui vont permettre de les amener à la lumière, la véritable lumière, à quitter l'obscurité de la forêt, qui représente la forêt du monde. Ce véritable chemin de vie n'est donné que par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ouais, on voit ici que le flambeau de la foi, souvent dans les statues anciennes, on voit ce flambeau qui représente la foi. Mais la lumière qui brûle au sommet du flambeau représente, elle, la charité, la grâce sanctifiante. Il y a d'autres images qui peuvent être utilisées, qui expliquent la même chose d'après les pères de l'Église. J'aime beaucoup les explications qu'ils donnent parce que les pères de l'Église ont beaucoup de bon sens. Et ils vont utiliser des comparaisons toujours très simples. Par exemple, une comparaison que j'aime beaucoup qu'on trouve chez les pères, ils comparent la lumière de l'âme à la lumière d'une lampe à huile. À l'époque, c'est ce qu'ils avaient pour s'éclairer. Autant les pères de l'Église, donc la lampe à huile est composée de plusieurs parties. D'abord d'un récipient en argile, qui est très fragile, si on le laisse tomber, il éclate en mille pièces. À l'intérieur de ce récipient, on place de l'huile, mais l'huile par elle-même ne peut rien faire. Il faut, pour pouvoir donner la lumière, il faut jeter une allumette dans un verre rempli d'huile, l'allumette s'éteint, il n'y a rien qui brûle. Il faut donc une mèche qui aspire en quelque sorte, par osmose en quelque sorte, qui aspire l'huile d'olive, et à ce moment-là, on peut allumer la mèche. Et donc, les pères de l'Église expliquent que ce vase de terre cuite qui contient l'huile, c'est le symbole de la foi. L'huile, c'est le symbole de l'espérance. Et la lumière qui brûle au bout de la mèche, c'est le symbole de la charité. Et d'autres pères expliquent aussi que la mèche est formée d'un toron, de trois cordes quatre cordes qui sont mêlées ensemble pour former une mèche, donc qui sont une espèce de tresse formée par quatre torons de fil de coton, je suppose, et ces quatre torons, d'après certains pères de l'Église, représentent les quatre vertus cardinales, donc la prudence, la force, la justice et la tempérance. Donc on retrouve dans l'image de la lampe à huile le fondement de toute la foi catholique, les trois vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, les quatre vertus cardinales, de prudence, de justice, de force et de tempérance. Et c'est l'alliance entre ces trois vertus théologales et ces quatre vertus cardinales qui permet à la flamme de brûler. Pourquoi ? Parce que la flamme va brûler à partir de la mèche qui s'imbibe à partir de l'huile qui est contenue dans le récipient, qui est la lampe à huile. N'oublions pas que ce sont des choses extrêmement fragiles et que si malheureusement on fait tomber la lampe à huile, la lampe éclate, l'huile se répand partout et la mèche s'éteint. Parce que justement, il n'y a plus de fondation nécessaire pour que la charité puisse demeurer. Il ne peut pas y avoir de charité sans la foi et l'espérance. Si la lampe tombe par terre, elle éclate, elle se brise en mille morceaux. Donc c'est la foi et l'espérance qui disparaissent. Si la foi et l'espérance disparaissent, évidemment, en conséquence, la charité va elle-même immédiatement disparaître elle aussi. J'aime bien cette phrase, il y a certaines phrases qu'il faut méditer chez les pères. La foi est un flambeau qui guide les fidèles à travers l'obscurité du monde, leur montrant le véritable chemin de la vie par lequel ils pourront atteindre sans trébucher le bonheur éternel. C'est pour ça qu'on donne par exemple aux séminaristes, le jour où ils reçoivent la soutane, on donne le flambeau allumé. Le flambeau allumé qui est également donné au prêtre qui va... Au séminariste, pardon, qui prend la soutane, il me semble bien aussi la consécration des évêques. Il y a un flambeau qui est offert par l'évêque qui vient d'être consacré, qui va donner à l'évêque consécrateur. On retrouve toujours la même idée. Verset chapitre 8 de Saint Jean, versets 13 à 18. Les Pharisiens lui dirent donc, vous rendez témoignage à vous-même, votre témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je me rende témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je viens et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais je suis avec le Père. qui m'a envoyé. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Or, je me rends témoignage à moi-même. Le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. Alors, voyons un petit peu les commentaires des Pères. En haut de la page 20, voilà ce que disent les Pères. De même que ce soleil visible répand sa lumière sur le visage de celui qui a les yeux ouverts et sur celui de l'aveugle, avec cette différence que l'un la voit et l'autre ne la voit pas, ainsi la sagesse de Dieu, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, est présent en tout lieu, même aux yeux des infidèles qui ne peuvent le voir parce qu'ils n'ont pas les yeux du cœur. Comment donc entendre ces paroles? Tout sera assuré par la déposition de deux ou trois témoins si nous y voyons une allusion mystérieuse à la Sainte Trinité qui possède éternellement l'immuable vérité. C'est une belle image, encore une image magnifique. Le bon Dieu veille sur tous les hommes, il répand sa lumière sur tous les hommes, mais certaines personnes ne vont voir que la lumière naturelle. Ils ne vont pas voir la lumière surnaturelle, et encore moins la lumière de gloire. Alors, c'est pour ça qu'il est dit que l'homme a été créé par Dieu à son image, à sa ressemblance. Donc tous les hommes ont l'image de Dieu, mais tous les hommes n'ont pas la ressemblance de Dieu. Donc tous les hommes ont une petite flamme qui brûle en eux, qui correspond à l'image de Dieu, parce qu'ils ont tous une âme, substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu et de le connaître. Mais pour beaucoup, ça s'arrête là. Pour d'autres, au contraire, Dieu, en plus de cette image, va donner sa ressemblance. La ressemblance, c'est la vertu de charité. La vertu de charité, donc tous les hommes naissent avec la loi naturelle, mais il manque, pour beaucoup d'entre eux, il manque la loi surnaturelle de la charité qui ne sera donnée, qui ne sera conservée que si je reste en état de grâce. Donc tous les hommes sont, par là, le fait qu'ils ont une âme, sont créés à l'image de Dieu, mais les catholiques qui ont en plus l'état de grâce sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc ça augmente nos obligations, attention. Quelqu'un qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu va devoir rendre beaucoup plus de compte au bon Dieu que quelqu'un qui n'est créé qu'à l'image de Dieu. Notez aussi qu'on ne peut pas être créé seul à la ressemblance seule de Dieu. Si on a la ressemblance, on a ipso facto l'image. Pourquoi? Parce que la charité ne peut pas exister sans la foi et l'espérance. Saint Jean, chapitre 8, versets 19 et 20. Et lui disait donc, où est votre Père? Jésus lui répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces choses, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Alors, ce trésor était le coffre, en quelque sorte, l'endroit où se conservait l'argent destiné au service du peuple, la subsistance des pauvres. Donc l'argent, à l'époque, dans le temple, avait deux destinations principales. La première, c'était l'entretien du tabernacle, l'entretien de la liturgique, si vous voulez, du tabernacle, donc toutes ces lumières qui brûlaient en permanence devant le tabernacle, mais qui symbolisaient la grâce sanctifiante, des sacrements qui n'étaient pas encore là. Et vous voyez, c'est quelque chose de très important à comprendre. Donc cet argent était utilisé non seulement à l'entretien du tabernacle, à acheter toutes les victimes aussi, qui allaient être immolées, il fallait acheter les agneaux, acheter les bœufs, acheter... ça coûte cher, hein. C'est un moyen important de subsistance. Donc, et en plus de ça, cet argent était utilisé par les prêtres pour subvenir aux pauvres. Donc le trésor était l'endroit où se conservait l'argent destiné au service du temple et à la subsistance des pauvres. Les pièces de monnaie sont les paroles divines qui sont marquées à l'effigie du grand roi. Où chacun doit concourir à l'édification de l'Église en déposant dans le trésor spirituel tout ce qui peut contribuer à l'honneur de Dieu au bien général. Et puisque tous les Juifs déposaient leur offrande volontaire dans le trésor, il était juste ainsi que Jésus mit son offrande dans le trésor, c'est-à-dire les paroles de la vie éternelle. Donc notre Seigneur Jésus-Christ apporte dans le trésor de l'Ancien Testament la vie divine que donne le Nouveau Testament. C'est pour ça qu'il est dit que Jésus enseignait dans le temple au lieu où était le trésor, parce qu'il est lui-même le trésor du monde. Personne n'osa se saisir de la personne du Sauveur, tandis qu'il parlait dans le temple, parce que ses discours étaient plus forts que ceux qui voulaient s'emparer de lui, car il n'y a aucune faiblesse dans ceux qui sont les instruments, les organes du Verbe de Dieu. Donc, La présence de notre Seigneur Jésus-Christ en nous nous donne une force extraordinaire. Il n'y peut y avoir aucune faiblesse, disent les pères, dans ceux qui sont les instruments, les organes du Verbe de Dieu. C'est-à-dire à partir du moment où je fais la volonté du bon Dieu et que je suis en état de grâce, eh bien, j'ai en moi une force divine capable de tout transformer, tout transfigurer. On le voit très bien, par exemple, à la transfiguration, justement, où la lumière de gloire va briller de telle façon que les vêtements de notre Seigneur Jésus-Christ vont devenir plus blancs que la neige, et son visage va être illuminé comme le soleil. Et les apôtres vont dire, il est bon pour nous d'être ici, c'est le symbole de la gloire du paradis. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va donc, en quelque sorte, dévoiler une petite partie de sa divinité pour montrer, donner aux apôtres une idée de ce que sera la gloire du paradis. Donc, soyons les instruments et les organes du Verbe de Dieu, il n'y aura en nous aucune faiblesse, disent les pères. Saint Bède le Vénérable dit encore, Jésus parle dans les parvis du trésor, parce qu'il parlait aux Juifs en parabole. Il commença à ouvrir le trésor lorsqu'il découvrit à ses disciples le mystère des cieux. Or, le trésor était une dépendance du temple, parce que toutes les prophéties figuratives de la loi des prophètes avaient le Sauveur pour objet. Donc ce trésor matériel représente évidemment un trésor spirituel caché beaucoup plus important. Donc les dons en espèces sonnantes et trébuchantes sont les symboles d'un autre don que va nous faire notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir le don de sa grâce. Donc Origène donne une raison mystique. Le trésor, il est ici parlé, verset 20, Jésus dit ces choses en enseignant dans le temple au lieu où était le trésor. Donc, le trésor, dit Origène, représente les discours divins, l'image du grand roi imprimée sur les pièces de monnaie qui sont les paroles divines. Donc, si je suis en état de grâce, j'ai en moi l'impression, en quelque sorte, du grand roi. Et donc, j'ai en moi les paroles divines. Je suis la monnaie du bon Dieu, littéralement, et le bon Dieu va utiliser cette monnaie pour acheter mon âme. Que chacun en contribue à ce trésor pour l'édification de l'Église selon ce qu'il peut donner pour l'honneur de Dieu, le bénéfice de tous. Et c'est une belle image, l'image de la pièce de monnaie qui représente le grand roi. Ce grand roi, évidemment, c'est le roi des cieux, notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui est le roi des rois, parce qu'il est créateur et parce qu'il est rédempteur. Donc pas par nature parce qu'il est créateur et pas droit de conquête parce qu'il est rédempteur. Enfin, Saint Bède le Vénérable, le Christ parle dans le lieu où était le trésor, car il parle aux Juifs en paraboles qui sont couvertes et fermées. Mais le trésor commence à s'ouvrir quand il explique à ses disciples et découvre les mystères célestes qui y sont contenus. Donc, en quelque sorte, notre Seigneur Jésus-Christ va enlever si vous voulez, la paille qui couvre la graine, pour que la graine puisse apparaître dans toute sa splendeur. Les scribes et les pharisiens, et les peuples juifs en général, ils malheureusement restaient à l'extérieur. Ils n'ont vu que la paille, ils n'ont pas vu que cette paille cachait en elle-même le trésor qu'est le froment lui-même. Donc c'est pour ça que ces paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ vont rester couvertes et fermées pour la plupart des Juifs, malheureusement, qui ne vont pas comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ, quand il parle du temple qu'il va reconstruire en 3 jours, parle de son propre corps, son propre temple. Avançons, versets 21-24 du chapitre 8. Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Là où je vais, vous ne pouvez venir. Les Juifs disaient donc, est-ce qu'il se tuera lui-même, puisqu'il dit, là où je vais, vous ne pouvez venir? Il leur dit, vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous mourrez effectivement dans votre péché. Alors, finalement, d'expliquer un petit peu ces paroles. C'est un peu complexe, il faut essayer, c'est un passage difficile de Saint Jean. Il n'y a pas que Saint Jean, le plus élevé des évangélistes. C'est pour ça qu'il est représenté par l'ange, qui vole beaucoup plus haut que les autres oiseaux. Donc les 3 évangélistes, Saint Matthieu, Saint Jean, Saint Marc plutôt et Saint Luc, représentent des animaux. Ils sont représentés par des animaux qui touchent le sol. Alors qu'au contraire,
L'évangéliste Saint Jean, l'évangile de Saint Jean représenté par l'aigle qui surplombe toutes les créatures par la puissance de son vol, la hauteur de son vol, la puissance de son regard. Les pères de l'Église ont toujours considéré que l'évangile de Saint Jean était largement en profondeur, largement supérieur aux synoptiques. Synoptiques, ce sont les trois autres évangélistes, Saint Matthieu, Saint Luc et Saint Marc. Donc, voyons la page 21, en haut de la page. Il y a en effet de grandes différences entre ceux qui cherchent Jésus, car tous ne le cherchent pas pour leur salut, et le bien qui peut leur en revenir. Aussi, il y a ceux qui le cherchent avec droiture, qui trouvent la paix. Or, chercher avec droiture, c'est chercher celui qui était en Dieu au commencement, afin qu'il nous conduise à son Père. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, son rôle, c'est d'élever les âmes vers la première personne de la Sainte Trinité. Il est Dieu et homme. Il part de l'humanité pour monter vers la divinité, nous faire monter vers la divinité. Nous, on est homme, on n'est pas Dieu. Mais en suivant notre Seigneur Jésus-Christ, on va remonter, recommencer par relever les yeux pour monter vers notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous n'ont pas fait ça, puisqu'on voit très bien qu'il y en a qui cherchent Dieu. Tu cherches notre Seigneur Jésus-Christ pour le suivre, pour le croire, le croire en lui et le suivre. Et puis il y en a qui le cherchent pour le tuer, malheureusement. Même malgré les miracles extraordinaires qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ, on voit après certains de ces miracles, par exemple, j'ai déjà expliqué qu'après les miracles de la résurrection de Saint-Lazare, eh bien, il y a certaines personnes qui vont évidemment se convertir en voyant un miracle pareil. Et il y a d'autres qui, devant le même miracle, eh bien, au contraire, vont sortir de ce miracle en étant décidé à perdre notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui est terrible. En effet, lorsqu'il se fut dérobé au regard des hommes, ceux qui le haïssaient comme ceux qui l'aimaient, le cherchèrent les uns pour le persécuter, les autres pour jouir de sa présence. Donc, on voit très bien, si vous voulez, que tout le monde est obligé d'utiliser notre Seigneur Jésus-Christ, soit pour sa ruine, soit pour sa résurrection. Devant notre Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas être neutre, c'est ce que expliquent les pères. Les uns donc vont chercher pour le persécuter, les autres pour jouir de sa présence. C'est la prophétie de Siméon. Cet enfant sera un signe de contradiction pour la résurrection, la chute de beaucoup en Israël. Un signe de contradiction. Donc devant notre Seigneur Jésus-Christ, on ne peut plus être neutre, ce n'est pas possible. Soit on l'accepte, à ce moment-là, il devient pour nous un signe de résurrection, soit on le refuse, il devient pour nous à ce moment-là un signe de chute. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ leur dit, vous êtes d'en bas, c'est-à-dire vous goûtez les choses de la terre, et vous ne portez pas bien haut les affections de votre cœur. C'est le verset 23. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Donc, le Seigneur Jésus-Christ leur dit, je suis de la lumière, vous êtes des ténèbres. Je suis de l'Église des droits de Dieu, vous êtes de l'Église des droits de l'homme. Je suis de l'Église de la pauvreté, de la chasteté, de l'obéissance, vous êtes de l'Église de l'égalité, de la liberté, de la fraternité. Donc devant notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes tous, moi le premier, obligés de faire un choix, et on ne peut pas rester neutre, c'est absolument impossible. Justement, c'est ce que voudrait le monde moderne. Le monde moderne voudrait nous pousser à ne pas prendre position devant notre Seigneur Jésus-Christ, ceci n'est absolument pas possible. Alors, voyons un petit peu ce que disent les pères. Saint Jean Chrysostome. Il n'est point surprenant que des hommes charnels, et qui ne comprennent rien de ce qui est spirituel, aient de semblables pensées. Mais pour moi, je suis d'en haut. Ces paroles, je ne suis pas de ce monde, signifie donc que je ne suis pas du nombre de ceux qui, comme vous, sont plongés tout entiers dans les préoccupations du monde. Rappelez-vous ce qui a été dit au cours de la vigile de Pâques, le samedi saint au soir, on fait la profession de foi. Au cours de cette profession de foi, il est bien dit que qu'il nous faut rejeter le monde qui est ennemi de Dieu. Oui, c'est la grande folie de l'Église de Vatican II, c'est de faire croire qu'on peut baptiser les principes, qu'on peut unir les principes de l'Évangile et les principes du monde. On ne se rend absolument pas compte que ces deux choses ne peuvent pas être unies, c'est absolument impossible. pour ça que un catholique, c'est quelqu'un qui est à des années-lumière de la façon de penser des hommes du monde moderne. Donc, ou je suis plongé dans les préoccupations du monde, ou au contraire, je suis plongé dans les préoccupations de notre Seigneur Jésus-Christ. Ou je monte les yeux vers notre Seigneur Jésus-Christ, je l'utilise pour ma résurrection, ou je refuse notre Seigneur Jésus-Christ parce que je me plonge vers les préoccupations mondaines, et du coup, ben, je vais utiliser notre Seigneur Jésus-Christ pour ma chute, ou la résurrection. Donc c'est vraiment on voit très bien qu'on est dans deux mondes différents, deux planètes différentes. On le voit très bien aujourd'hui de plus en plus. On voit la contradiction qui existe entre la façon de vivre, la façon de penser, la façon de se comporter d'un catholique et la façon de vivre, de se comporter d'un protestant, d'un mondain, quelqu'un qui n'a pas la foi catholique. Donc selon Origène, on peut encore donner une autre explication des choses qui sont en bas de celles qui sont de ce monde. L'expression en bas signifie un endroit spécial, car ce monde matériel se divise en une multitude d'endroits qui sont tous en bas relativement aux choses immatérielles et invisibles. Mais si l'on établit une comparaison avec les divers lieux du monde, les uns seront en haut et les autres en bas. C'est pour cela que l'enfer a toujours été symboliquement placé par les pères de l'Église au centre donc en bas, au centre de la terre. Je vous rappelle que l'Église ne s'est jamais prononcée sur le lieu de l'enfer. L'enfer est un lieu réel, attention. On ne sait pas où c'est. Vous pouvez croire qu'il est au centre de la terre, mais il n'y a aucune obligation de croire qu'il est au centre de la terre. Il semblerait que ce soit au centre de la terre, parce qu'on le voit très bien, par exemple, dans l'apparition de Notre-Dame de Fatima, où la Sainte Vierge va ouvrir la terre devant les yeux affolés, effarés des enfants, pour leur montrer une vision de l'enfer. Donc elle l'ouvre, des rayons sortent de ses mains pour cela. Donc cette phrase d'Origène montre justement bien cette division entre le monde d'en haut qui est le monde de la lumière et le monde d'en bas qui est le monde des ténèbres, le monde d'en haut qui est le monde de l'adoration de Dieu fait homme, et le monde d'en bas qui est le monde de l'adoration de l'homme qui se fait Dieu. Chacun a son cœur là où est son trésor. Celui donc qui thésaurise sur la terre descend en bas. Celui au contraire qui amasse des trésors pour le ciel monte en haut. Il est véritablement d'en haut, et en s'élevant au-dessus d'eux, encore une faute d'orthographe, là, j'ai pas vu, en s'élevant au-dessus de ces mondes, il parviendra à la souveraine béatitude. Donc, pour atteindre la souveraine béatitude, il est absolument nécessaire de quitter un monde pour monter dans l'autre monde. On ne peut pas atteindre la souveraine béatitude en étant écartelé entre un monde et l'autre, en voulant posséder les deux mondes à la fois. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Si je ne suis pas avec notre Seigneur Jésus-Christ, je suis contre lui. C'est les deux étendards de Saint-Ignace. Soit l'étendard du monde avec les droits de l'homme, donc ce sont les honneurs, c'est l'argent, c'est l'orgueil, soit l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ, l'étendard des droits de Dieu, au contraire, avec la pauvreté, avec l'humilité, avec tout ce qui découle avec la pauvreté. Disons encore que l'amour du monde fait l'homme du monde. Celui au contraire qui n'aime ni le monde ni les choses qui sont dans le monde n'est pas de ce monde. Il est cependant en dehors de ce monde, sensible à un autre monde habité par les êtres invisibles dont l'éclat et la splendeur seront révélés à ceux qui ont le cœur pur. Bienheureux les cœurs purs, justement, parce qu'ils verront Dieu. Il y a le texte des Béatitudes qui nous explique cela. Donc, un homme n'est pas fait pour vivre ici-bas dans ce monde. Donc, le monde moderne essaie de nous faire croire que tout s'arrête au trou du cimetière et que donc l'amour du monde doit remplir complètement le cœur de l'homme. L'amour du monde, j'aime bien cette expression, l'amour du monde fait l'homme du monde. Au contraire, l'amour de Dieu fait l'homme de Dieu, l'homme de la prière. D'où l'importance de l'oraison. C'est l'oraison qui va nous permettre de garder notre cœur, notre âme tournée vers le bon Dieu pour ne pas être tenté de tourner notre regard vers le sol ici-bas et donc de perdre complètement la grâce sanctifiante. Enfin, au milieu de la page 21, on peut aussi donné le nom de monde, le premier-né de toute créature, et en tant qu'il est la souveraine sagesse, car toutes choses ont été faites dans la sagesse. Le monde et tout ce qu'il renferme était donc en lui, mais d'une manière aussi différente du monde matériel que la raison même du monde pur, de tout principe matériel diffère du monde extérieur et sensible. L'âme de Jésus-Christ dit donc « Je ne suis pas de ce monde » parce qu'elle ne vit pas dans ce monde. Attention, donc il faut vraiment que notre esprit soit avec notre Seigneur Jésus-Christ et que cette présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre esprit est une conséquence aussi sur notre façon de nous occuper de notre cœur, notre corps. Attention, pas oublier ça, c'est très important. Si je ne pense pas comme je vis, un jour, je vivrai comme je pense. Donc, si mon âme est catholique, mon intelligence est catholique, mais dans la pratique, je vis comme un protestant, un jour, je vais finir par penser et vivre, je vis comme un protestant, un jour, je vais finir par penser comme un protestant, attention. Je dis souvent aux jeunes filles, quand je m'en parle au confessionnal, je dis, attention, si vous pensez comme une catholique, mais vous vivez comme une prostituée, vous habillez comme une prostituée, un jour vous pensez comme une prostituée. C'est exactement ce qui se passe dans le monde moderne. Le monde moderne nous couvre, si vous voulez, de choses matérielles pour que nous pensions comme un homme amoureux des choses matérielles et qu'on oublie mon Dieu. C'est pour ça que le monde moderne va remplir en quelque sorte le cœur humain de choses matérielles pour qu'il n'y ait plus de place pour les choses spirituelles, il n'y ait plus de place pour notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Enfin, on peut donner aussi le nom de monde au premier-né de toute créature, en tant qu'il est la souveraine sagesse, car toutes choses ont été faites dans la sagesse. Le monde et tout ce qu'il renferme était donc en lui, mais d'une manière aussi différente du monde matériel que la raison même du monde pur de tout principe matériel diffère du monde extérieur et sensible. Bon, vous êtes donc attachés à vos péchés et vous irez dans les bas-fonds pendant que je retournerai au ciel. Donc si je veux suivre notre Seigneur Jésus-Christ dans son ascension au ciel, je dois me débarrasser des choses qui m'alourdissent. Si je suis attaché par une chaîne aux choses de ce monde, les chaînes du monde moderne, de l'orgueil, les chaînes de la richesse, les chaînes des trois concupiscences, de la chair, des yeux, de l'orgueil, eh bien je ne peux pas m'élever vers le bon Dieu. Si je veux m'élever vers le bon Dieu, la première chose que je dois faire, c'est me couper de ces poids superflus qui entraînent mon âme vers le bas. Vous me chercherez à ce moment-là sans me trouver parce que justement vous êtes englué dans les histoires du monde, dans les plaisirs mondains. Dieu au contraire est comme l'aigle qui plane, qui habite dans les plus nobles montagnes de l'éternité alors que vous n'êtes que des vers et des insectes qui se vautrent dans la terre. C'est une belle image des pères. Donc qui compare notre Seigneur Jésus-Christ qui vogue, qui vole vers le soleil, pardon, et au contraire les hommes qui se vautrent sur la terre et qui sont comme des vers et des insectes. C'est vraiment très belle image. L'âme en état de grâce est représentée par l'aigle. L'âme qui vit dans le péché mortel est représentée par les vers et les insectes. Quelle différence! Donc moralement, donc nous venons d'en bas, descendant d'Adam, de qui proviennent nos désirs terrestres et enflammés par nos mauvaises passions, ne recherchant que les choses mauvaises. Mais moi, je suis d'en haut, dit notre Seigneur, né comme Dieu du Père et comme homme incarné du Saint-Esprit. Ainsi, tous mes sentiments, mon amour, mes désirs sont célestes. Mais vous ne pouvez m'atteindre si vous naissez de nouveau, et de terrestre, vous devez devenir céleste et spirituel. Donc la confession va libérer complètement l'âme. C'est comme si vous voulez un oiseau qui ne peut pas voler, la confession va couper le fil à la patte qu'il avait qui l'empêchait de voler. La confession va couper ce fil et l'oiseau peut à ce moment-là voler vers le soleil. Bon, ce sont des passages assez difficiles. Hein. Il faut reconnaître qu'il y a des passages dans Saint Jean qui sont loin d'être faciles. Hein. Mais avec la grâce du bon Dieu, les pères de l'Église expliquent justement toutes ces choses-là, même si c'est pas très facile à comprendre. Donc voilà, on va arrêter là parce que ça fait déjà une heure que je vous parle. Et si Dieu veut, ben je redonnerai une conférence pour le premier mercredi du mois de juin, parce que là c'est la conférence que je prépare pour le dernier mercredi du mois de mai.
En terminant par une prière, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin et Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.